suivre par Facebook et Alain, que je connais beaucoup plus par Facebook. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que je vais en fait fermer mon Facebook, puis juste avoir une page Facebook pour des raisons de facilité. La deuxième des choses, juste taper sur Facebook, Messager Kabuya. Il y a trop de pasteurs, alors j'ai choisi Messager, c'est plus simple. Je pense que tout le monde a un message à dire, c'est pour ça qu'on est en ligne. Alors juste vous rajoutez là, comme ça nous allons pouvoir garder les nouvelles. La deuxième des choses, c'est juste vous dire que il y a ici au Québec, depuis peut-être 3 ans ou 4 ans, le ministère Enseigne-moi, avec lequel je collabore souvent dans la pensée du jour. Je vais bientôt collaborer avec la section Pasteur, j'ai une question. La raison pour laquelle je vous en parle, ce n'est pas pour faire ma publicité, c'est que ce ministère est au Québec. Leur siège social est au Québec. Et ils ont besoin de plus de participation québécoise. Souvent, on voit beaucoup d'Africains, de Français, parce qu'originellement, ils étaient en France. Mais maintenant, ils sont au Québec, ils sont dans la région de Granby. Et ça serait bien qu'on ait beaucoup plus de nos frères québécois qui vont non seulement aller regarder les émissions, commenter, parce qu'ils sont ici au Québec, mais qui vont aussi trouver une manière de soutenir, d'une façon que ce soit. Je ne fais pas une levée de fonds, mais juste vous dire, c'est une opportunité. Ils auraient pu rester en France. Pourquoi ils sont venus au Québec? Je ne le sais pas, mais je sais une chose. Ça fait des années que des hommes de Dieu disent qu'il va y avoir un réveil ici au Canada et que le Québec est appelé à jouer un rôle pionnier dans la francophonie. Alors, j'aimerais tous vous inviter, si c'est possible, d'aller sur le site enseignemoi.com et juste de vraiment d'aller et d'écouter. J'ai l'occasion de travailler avec eux et c'est vraiment extraordinaire. C'est une jeune équipe, mais une jeune équipe de qualité et ce sont des paroles, des enseignements de qualité que vous pouvez aussi recevoir. Alors j'aimerais beaucoup vous encourager. Amen. Alors venons-en à l'essentiel de ce matin. J'aimerais ce matin vous parler sur la ceinture de la vérité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire de façon pentecôtiste? Ah, je veux me rassurer que vous êtes avec moi. C'est une série que je développe sur les armes de la victoire. J'aimerais ce matin parler de la ceinture de la vérité. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 au verset 17. Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 au verset 17. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Alors que nous annonçons ta parole, nous prions que le Saint-Esprit soit en activité pour qu'il y ait des guérisons, des délivrances par le nom puissant de ton saint serviteur Jésus. Que, Seigneur, tous les mensonges de l'ennemi soient anéantis ce matin, toute activité des puissances des ténèbres soit brisée. Au nom de Jésus, nous te prions de te glorifier. Nous avons ainsi prié. Amen. Éphésiens chapitre 6, le texte est là. La Bible dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez les chaussures à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen à cela? Il est intéressant d'aborder ce texte parce que nous sommes dans un temps où on nous prêche beaucoup un évangile où Dieu est bon, Dieu est amour, et je le crois que c'est important, mais je crois que revenir à ce texte nous incite à voir une autre réalité de la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne en elle-même est un combat. Et c'est un combat que nous n'avons pas choisi, dans lequel nous sommes engagés. C'est un combat dans lequel nous ne pouvons pas être neutres. Il n'y a pas de chrétien neutre. Si tu es neutre dans la vie chrétienne, c'est que ça fait longtemps que tu es englouti par l'ennemi. Mais l'apôtre Paul souligne une vérité importante que l'Église doit comprendre, c'est que il y a un monde physique et il y a un monde spirituel. Et le chrétien ou l'Église est quelque part engagé, qu'il le veuille ou pas, dans ce combat. Amen. Lorsque souvent on va parler justement de monde spirituel, des démons, des sorciers, la tendance occidentale est de croire que c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Haïti, c'est pour les gens qui ont la belle couleur de peau. Mais j'aimerais vous dire que les gens à qui l'apôtre Paul écrit sont dans une cité cosmopolite. Et Paul est en train de leur dire, faites attention, ne soyez pas des chrétiens naïfs, ne soyez pas des chrétiens ignorants. Vous êtes engagés dans une bataille. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, nous sommes engagés dans une bataille? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes engagés dans une bataille? Et le texte vient en conclusion d'une lettre que Paul écrit à cette église. Et il est intéressant d'observer la lettre qu'il écrit parce que le livre de Éphésiens focalise sur la double thématique qui est premièrement le mystère du Christ et de l'Église. Donc d'un côté, Éphésiens parle de Christ, de l'autre côté, il parle de l'Église. Et lorsqu'on compare le livre d'Éphésiens avec l'épître de Paul aux Colossiens, premièrement, c'est que Colossiens va nous expliquer la personne et l'œuvre de Christ et sa relation avec l'univers entier. Voilà pourquoi Colossiens va dire qu'il est avant toute chose, c'est par lui et pour lui que toute chose subsiste. Il est le premier-né de toute la création. Colossiens va mettre l'accent sur la prééminence de Christ, sur Christ comme étant l'auteur de toute la création, comme étant, en fait, je dirais, la loi de gravité, la cause et nous sommes l'effet. Le Christ est la cause et nous sommes l'effet. Il est la cause de notre création et nous sommes l'effet de son action pour nous créer. Mais Christ aussi est la cause de notre salut et si nous sommes sauvés, c'est parce que Christ est parti à la croix. Quelqu'un peut-il dire amen à cela? Tandis que Éphésiens va mettre un accent sur beaucoup plus l'Église. Éphésiens met l'accent sur l'Église, mais l'accent sur l'Église, non seulement l'Église en tant qu'Église locale, mais l'Église en tant que corps de Christ. L'Église qu'on appelle, dans le langage théologique, l'Église cosmique, le rôle cosmique de l'Église, le rôle de l'Église dans l'univers. Et le rôle de l'Église en tant que corps de Christ. Et Éphésiens va mettre aussi un accent sur la position de l'Église et ce que l'Église est appelée à faire, ce que l'Église est appelée à exercer. C'est pour cela que Paul va écrire et il va encourager ces chrétiens-là en leur disant, un de vos rôles dans le monde, c'est que vous êtes engagés dans une bataille. Et il commence d'abord, avant de parler de cette bataille, de parler de trois choses importantes, je dirais même six. Premièrement, il commence à parler de ce que nous avons acquis en Christ. L'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens que premièrement, nous avons acquis notre richesse en Christ. On peut le voir dans Éphésiens chapitre 1 à 3, où l'apôtre Paul parle des acquis du salut. La Bible dit que en lui, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va parler que en Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul va aborder en disant que la thématique de la marche du chrétien dans le monde et de la marche du chrétien en Christ. Et finalement, le chapitre 6 du livre d'Éphésiens établit le rôle du chrétien dans le combat qu'il a à livrer. Si on peut résumer le livre d'Éphésiens, on pourrait alors le résumer en trois mots-clés. Et ces trois mots-clés sont nécessaires à retenir et je prêcherai sur le troisième. Les trois mots-clés sont les positions du chrétien par rapport aux trois entités dans l'univers. La première des choses, c'est notre position en Christ. Éphésiens établit clairement que le chrétien doit être assis en Christ. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens dit que nous sommes assis en Christ. Donc, étant assis en Christ, la Bible dit que Dieu, premièrement, nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons en Christ la rédemption. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et nous avons été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Donc, le premier mot que nous retenons de la position du chrétien, c'est la position assise. La deuxième des choses, l'apôtre Paul dit, c'est notre vie dans le monde. La Bible dit que dans le livre des Éphésiens, que ne plus se conformer par rapport au monde. Donc, si nous sommes assis en Christ, c'est que nous ne pouvons pas être assis dans le monde. On ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, nous sommes assis en Christ, mais par rapport au monde, nous sommes debout, marchant en Christ dans ce monde, en préparation de la venue du Seigneur. Le deuxième mot qui résume le livre d'Éphésiens, c'est le mot « assis ». Donc, premièrement, c'est le mot « debout ». Nous sommes assis en Christ, nous sommes debout dans le monde, parce que si nous sommes assis dans le monde, ça veut dire que nous nous conformons à ce monde. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir en Christ afin d'être debout dans le monde, pour ne pas se conformer, mais pour marcher en conformité avec Christ, afin de lui ressembler et d'être justement le reflet de sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Donc, la première entité, c'est notre position en Christ. La deuxième, c'est notre position par rapport au monde. Mais la troisième phase de la vie chrétienne ou de la position du chrétien, c'est sa position face à l'ennemi. La position du chrétien face à l'ennemi se traduit en un seul mot. C'est le mot que l'apôtre Paul va utiliser 3 à 4 fois dans le texte que nous avons lu. C'est le mot « tenir ferme ». Quelqu'un peut-il dire « tenir ferme » ? Quelqu'un peut-il dire « tenir ferme » ? Il est important de comprendre que l'apôtre Paul ne dit pas que la position du chrétien face à l'ennemi, c'est d'attaquer, mais c'est de tenir ferme. Je vais le répéter. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas d'attaquer, mais c'est de tenir ferme. Beaucoup de chrétiens veulent attaquer, mais Dieu veut que nous puissions tenir ferme. Par rapport à Dieu, nous devons être assis en Christ, solides, enracinés dans la parole de Dieu. Par rapport au monde, nous devons être debout afin de ne pas nous conformer. Mais par rapport à l'ennemi, la Bible dit que nous devons tenir ferme, tel qu'elle le dit plus loin, résister au diable et il fera. Mais avant ça, il dit, soumettez-vous à Dieu. Amen. Où est-ce que je veux en venir? C'est que l'idée ici que Dieu veut nous véhiculer en tant qu'Église, c'est que nous devons tenir ferme. Ça veut dire que la position à partir de laquelle nous tenons ferme n'est pas une position de défaite. Nous ne combattons pas à partir de la défaite, mais nous combattons à partir de la victoire. Si nous sommes appelés à tenir ferme, le terme employé ici est un terme militaire. Ça veut dire que un gouvernement ou un général a conquis un territoire, comme les Romains le faisaient. Une fois avoir conquis le territoire, il dépose une garnison sur place et ils ont pour devoir de protéger ce qui a été déjà acquis d'avance. Dieu nous demande de protéger ce qui a déjà été acquis d'avance. Dieu nous demande non d'attaquer, mais d'abord de protéger, de tenir ferme. Il y a tant de travail qui a été fait ici à Saint-Honoré. Tant de travail que l'homme de Dieu que vous avez ici fait pour que l'Église avance. Alors que nous approchons de la fin de l'année, le Seigneur veut que vous puissiez tenir ferme. Il y a des acquis que cette Église a. Vous avez le devoir de tenir ferme. Il y a des choses qui ont été acquises. Il y a des ministères qui sont partis, qui ont commencé dans cette église. Et ce que le Seigneur veut, c'est que vous puissiez tenir ferme dans ce qui a déjà été accompli. Alors, le message de Paul aux Éphésiens, c'est qu'il leur dit, il y a un cheminement que vous avez déjà eu avec Dieu, vous ne pouvez plus reculer, mais au point où vous êtes arrivé, vous devez tenir ferme. Quelqu'un ce matin a besoin de tenir ferme dans sa foi. Quelqu'un ce matin a besoin de tenir ferme dans ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie. L'apôtre Paul dit, le point sur lequel nous commençons devant Dieu, le point sur lequel nous commençons plutôt face à l'ennemi, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas l'attaque, c'est juste tenir ferme. Tenir ferme, si on va plus loin, ce n'est pas simplement un terme militaire, mais c'est un terme juridique. C'est assurer une juridiction sur un territoire qui a déjà été acquis. Est-ce que je peux aller plus loin ce matin? Tenir ferme a aussi le sens d'appliquer la politique du gouvernement que nous représentons sur le territoire qui a déjà été acquis. Donc quand nous tenons ferme, nous ne faisons pas un acte religieux, nous faisons un acte politique, nous faisons un acte juridique. Faisons un acte légal de tenir ferme. Le message de Dieu pour toi ce matin, qu'importe ce que tu vis, tiens ferme. Qu'importe ce que tu traverses, tiens ferme. Si tu ne sens pas la victoire, tiens ferme. Si tu te sens découragé, tiens ferme. Si tu ne vois pas les résultats, tiens ferme. Si tu as l'impression que l'enfer entier est déchaîné contre toi, le message de Dieu à cette église aujourd'hui, c'est tenez ferme. Vous avez l'impression que vous travaillez et que vous ne voyez pas les résultats dans l'église, tenez ferme. Vous avez l'impression que tel frère qui marchait avec vous ne marche plus avec vous, tenez ferme. Vous regardez autour de vous, telle personne qui était avec vous s'est éloignée de la foi. Et vous avez l'impression qu'on vient à l'église et on a l'impression qu'on tourne en rond, que les choses n'avancent pas, à part quelques personnes peut-être qui semblent avoir la victoire. Et vous avez l'impression qu'on n'avance pas. Le message de Dieu aujourd'hui, c'est que la victoire a déjà été acquise à la croix. Tenez ferme. Dieu ne cherche pas aujourd'hui des chrétiens qui attaquent, mais des chrétiens qui tiennent ferme. Parce que quand un militaire commence son exercice, la première des choses qu'on lui apprend, ce n'est pas l'attaque, c'est la défense. Et tu as besoin d'apprendre à tenir ferme. Il y a tant de chrétiens découragés. Il y a tant de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ont perdu l'espoir. Je suis venu de la part de Dieu pour vous dire que la victoire a été acquise à la croix de Golgotha. Je suis venu vous dire que le diable a été humilié à la croix de Golgotha, que Satan est dans la défaite. Mais comme un bon ennemi qui a perdu, il veut nous montrer qu'il a la victoire. Mais j'aimerais vous dire ce matin que vous avez la victoire dans le nom de Jésus. Sur toutes les forces de l'ennemi, vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Et vous avez l'autorité de la part de Dieu pour tenir ferme. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tiens ferme? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tiens ferme? Dis à quelqu'un, tiens ferme parce que tu es dans la légalité. Nous tenons ferme parce que nous sommes dans la légalité de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Nous tenons ferme parce que nous sommes autorisés par celui qui a la victoire, Jésus-Christ de Nazareth, à résister à l'ennemi. Si l'ennemi vient près de toi ce matin, j'ai un seul mot pour toi, tiens ferme. La vie chrétienne ne se vit pas par des émotions, mais elle se vit par la conviction et la foi que nous avons dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut-il dire amen à cela? Alléluia. Ensuite, l'apôtre Paul va dire ceci aux Éphésiens. Il va dire « tenez ferme ». Mais c'est intéressant parce que il leur dit « pour tenir ferme, vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu ». Mon bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul n'a pas dit que nous devons nous revêtir de nos armes, mais des armes de Dieu. Parce que les seules armes que l'ennemi connaît et qu'il respecte, c'est les armes de Dieu. Maintenant, j'aimerais aller avec vous beaucoup plus loin. Pourquoi il dit de se revêtir des armes de Dieu? Si on suit l'histoire, vous allez voir que, en réalité, chez les Romains, quand quelqu'un s'engageait dans l'armée, cette personne-là apportait ses armes. Dépendamment s'il était riche, évidemment, il était bien couvert. Donc, il pouvait survivre dans la bataille. Mais s'il était pauvre, well, comme on dit en bon français, il était mal barré. Mais regardez, l'apôtre Paul dit, non, il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, quand tu t'engages dans l'armée de Dieu, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement riche qu'il te donne les armes. Ces armes sont taillées sur mesure pour toi. Ces armes sont destinées à te protéger parce que quand tu rentres dans le royaume de Dieu, le but de Dieu n'est pas de te perdre, mais le but de Dieu c'est de te garder. Le but de Dieu c'est de te protéger. Le but de Dieu c'est que tu tiennes ferme jusqu'à ce que Christ revienne. Est-ce qu'on peut aller plus loin ce matin? Maintenant, pourquoi Dieu donne les armes? Parce que dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un allait combattre, relever un défi comme David a relevé le défi devant Goliath, c'est que le roi enlevait son armure et donnait à cette personne-là pour que la personne aille représenter. Donc, quand la personne allait représenter, elle ne se représentait pas elle-même, mais elle représentait le roi. Elle représentait le gouvernement. Elle représentait l'autorité, mais quiconque représente le roi représente tout le pays entier. Alors, celui qui représentait le roi était le champion du roi. Il ne combattait pas en son nom. Je ne sais pas si vous me saisissez ce matin. Il ne combattait pas en son nom, mais il combattait au nom du roi. S'il frappe, il frappe au nom du roi. Voilà pourquoi quand nous prions au nom de... Parce que nous sommes les champions de Dieu. Parce que nous sommes les champions de Dieu. Nous allons combattre... Dieu nous donne son armure parce que Dieu dit, dès que tu es né de nouveau, tu es devenu mon champion. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est qui est né de Dieu a triomphé du monde. Voilà pourquoi Dieu veut nous revêtir. Il dit, n'allez pas devant l'ennemi, n'allez pas devant les circonstances de tous les jours. Revêtis des armes de votre mentalité, mais portez mes armes parce qu'à mes yeux, vous êtes mes champions. Peut-être que vous êtes comme David, on vous regarde tout petit, capable de rien, mais vous avez entre vos mains les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous êtes les champions de Dieu. Vous êtes les champions de Dieu. Quelqu'un peut-il dire amen à cela ce matin? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, non vos armes, mais les armes de Dieu, parce que seules les armes de Dieu, dans ce genre de combat, vous permet de tenir ferme. Quiconque porte les armes de Dieu ne se représente plus lui-même. C'est tellement puissant que quand je porte les armes de Dieu, quand l'ennemi me regarde, il ne voit pas moi, il voit Dieu. Quand je porte les armes de Dieu, quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'autorité du roi que je représente. Voilà pourquoi, face aux circonstances auxquelles tu fais face, tu as besoin de porter l'armure de Dieu afin de dégager tout ce que le roi des rois est, afin de dégager la vie de Dieu. Et l'ennemi fera tout pour que tu ne portes jamais les armes de Dieu. Est-ce que tu penses, même ça marche, la prière? Tu enlèves l'épée. Tu laisses l'épée et tu vas sans rien. Le Seigneur m'a révélé dernièrement que beaucoup de chrétiens ne portent pas les armes. Vous pensez qu'ils portent une tenue militaire, mais en réalité, ils sont déguisés. Ils sont déguisés. Ils sont déguisés en plusieurs choses, mais Dieu a besoin. Quand l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, c'est parce que Dieu prend ses armes et nous les donne. Et nous devenons les représentants de Dieu. Nous devenons le champion de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin que tu es le champion de Dieu? Je pose la question à ton voisin, est-ce que tu crois que tu es le champion de Dieu? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu es le champion de Dieu, vous devez comprendre ça en relation de l'histoire de David avec Goliath. C'est que David s'engage de marcher, plus en son nom, plus au nom de son père, plus au nom de sa race, mais au nom du Dieu d'Israël. Donc, quand il marche sur le champ de bataille, ce n'est même plus sa qu'ils représentent. Nous avons trop représenté les hommes. Nous avons trop représenté notre pays. Nous avons trop représenté nos races. Nous avons besoin de commencer à représenter Dieu sur le marché du travail. Nous avons besoin de commencer à représenter Dieu dans nos foyers. Nous avons besoin de commencer à représenter Dieu dans nos familles afin que la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand David marchait sur le champ de bataille, les yeux de tous étaient sur lui parce que sa victoire était la victoire du roi des rois. Dieu compte sur toi pour que tu marches en son nom pendant cette semaine. Dieu compte sur toi pour que tu parles en son nom cette semaine. Quelqu'un peut-il dire amen à cela? L'apôtre Paul dit, tenez ferme. Nous avons vu que tenir ferme est un acte que nous posons au nom du roi. Nous ne tenons pas ferme pour nous. Nous ne tenons pas ferme parce que c'est le fun. Non, nous tenons, c'est difficile. Nous tenons ferme parce que nous avons le mandat de Dieu. Nous avons un mandat légal de tenir ferme. Cette église a besoin de tenir ferme. Vous avez besoin de tenir ferme. J'aimerais rapidement terminer avec une seule chose, donc qui est l'essentiel de ce que je veux vous dire. L'apôtre Paul dit de tenir ferme. Et il va utiliser un terme simple. Il dit, tenez ferme en ayant à vos reins la ceinture de la vérité. Maintenant, logiquement, quelqu'un aurait pensé qu'il aurait dit, tenez ferme en ayant d'abord l'épée, n'est-ce pas? Non, il commence à utiliser un terme très simple. Il dit, prenez l'épée, le gladius, la ceinture de, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Il dit, à partir de la ceinture de la vérité, maintenant, prenez les autres armes. La maladie de l'Église actuellement, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens qui veulent prendre des épées alors qu'ils n'ont pas de ceinture. Et il est dangereux de prendre une épée quand tu n'as pas de ceinture. L'ordre divin dans le revêtement spirituel doit être respecté afin d'être efficace dans la bataille. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc, la première pièce de l'armure du chrétien, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas le casque, ce n'est pas la cuirasse, mais c'est la ceinture. On va du plus important, du nécessaire. Parce que sans la ceinture, toute l'armure devient problématique. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de connaissances, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne portent pas la ceinture de la vérité. Il y a trois ceintures que vous pouvez découvrir dans la parole de Dieu. Mais je vais d'abord expliquer l'importance de la ceinture. La ceinture, dans l'ancien temps, c'est que vous savez que les gens à l'époque, je n'aime pas appeler ça des robes, alors... Les gens à l'époque portaient des tuniques. Et la tunique était une pièce ample qui faisait que, pour pouvoir se mouvoir facilement, donc il fallait avoir une ceinture afin de pouvoir avoir les mains libres. Et dans l'armée romaine, c'était la même chose. Il fallait avoir une ceinture pour pouvoir tenir bien la robe en place. Mais vous allez voir qu'une des façons qu'on punissait parfois un soldat romain, c'est qu'on lui enlevait sa ceinture. Et il ne pouvait pas se mouvoir sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que la ceinture, non seulement tenait la robe en place, mais une fois que je mettais la ceinture tenait en place la cuirasse de la justice. Et c'est sur la ceinture que je pouvais mettre l'épée de la parole. Est-ce que vous comprenez comment ça devient vital? Et à partir de l'épée de la parole, je pouvais tenir le bouclier de la foi que je pouvais attacher, comme ça, au cas où ça pouvait tomber, ma ceinture de la vérité tenait le bouclier de la foi. Donc, la qualité de la ceinture détermine la qualité de tenir ferme. Parce que si la ceinture n'est pas bonne, elle devient un objet de distraction. La ceinture devait être assez solide pour que, si je me penche à gauche, la ceinture tient, la tunique tient. Si je vais sur un terrain en train de monter ou que je suis en train de me baisser, la ceinture doit tenir. Ça devrait être une ceinture, en d'autres termes, on dirait tout terrain. Pourquoi? Parce que de la ceinture, de la qualité de la ceinture, dépend toutes les autres armes. Les armes offensives comme les armes défensives. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas porter la cuirasse de la justice sans avoir mis sur vous, premièrement, la ceinture. Sans ceinture, vous êtes inefficace. Sans ceinture, tout ce que vous portez devient un objet de distraction. Maintenant, je vais avec vous dans l'essentiel en vous disant que le but de l'ennemi, c'est de nous distraire. Comment l'ennemi veut nous distraire? C'est que l'ennemi veut, et c'est ce que plusieurs chrétiens tombent dedans, c'est qu'il y a trois ceintures, comme je disais. La première ceinture que tu peux porter ce matin, c'est la ceinture du mensonge. Donc tu as la foi, si c'est drôle, hein, tu as la parole de Dieu, mais toute ta vie est fondée sur un mensonge. Combien de chrétiens vivent avec une vie fondée sur un mensonge? Exemple, un mensonge typique, je ne suis pas beau, personne ne m'aime. L'ennemi te le chante depuis que tu es petit. Tu es assis et ce mensonge est en toi. Donc, même si tu pries, même si tu jeûnes, il n'y a pas d'efficacité parce que, au fond de toi, la vérité fondamentale de ta vie, c'est quoi? Personne ne m'aime. Et l'ennemi te le chante. Et c'est à partir de là que tu peux voir même un chrétien se suicider. Parce qu'il ne porte pas la ceinture de la vérité. Ma question pour toi, mon bien-aimé, quel est le mensonge que l'ennemi te répète à répétition? La ceinture du mensonge qu'un pasteur peut porter, c'est quand l'ennemi n'arrête pas de lui dire « Ton ministère ne marche pas ». Tu t'imagines, tu te lèves le matin, les gens vont quitter ton église. Ton ministère ne marche pas. Les gens vont quitter ton église. La ceinture du mensonge, c'est ton mariage va briser. Vous allez divorcer. Donc, vous avez beau prier, vous avez beau chanter, vous avez beau confesser, vous avez beau jeûner, mais la ceinture est malade. Quand la ceinture est malade, tout le reste est malade. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas la capacité de Dieu, ce n'est pas le revêtement de Dieu, mais c'est la ceinture qui est la base de toute l'armure spirituelle qu'il porte. La ceinture est malade. Et quand la ceinture est malade, tout le reste n'a pas beaucoup d'effet. Le but du diable, c'est que tu ne portes pas la ceinture de la vérité, mais que tu portes la ceinture du mensonge. Cette ceinture du mensonge vient souvent sous la forme de culpabilité. Elle vient sous la forme de pensées mensongères répétitives. Elle vient sous la forme d'intimidation. Elle vient sous la forme de peurs et d'angoisses non fondées. Quelle ceinture portes-tu ce matin? Quelle ceinture portes-tu ce matin? Est-ce que tu portes la ceinture du mensonge? Tu vas voir quelqu'un, il est assis, tranquille dans son mariage, mais il a juste envie de divorcer. Juste comme ça. On appelle ça aujourd'hui, « Oh, je ne sens plus les papillons. » Mais mon ami, le mariage n'est pas une question... Le mariage n'est pas une question de sentir. C'est un engagement. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Quel mensonge! Et la télévision nous véhicule tellement de mensonges. Tellement de mensonges sont véhiculés et font partie de notre ceinture. Nous avons besoin ce matin d'enlever ces mensonges pour croire ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Quelqu'un dit amen. La deuxième ceinture qu'un enfant de Dieu peut porter, c'est la ceinture de la réalité. Maintenant, la réalité par rapport à la vérité, ce n'est pas la même chose. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Par définition, la réalité est une... Je ne peux pas dire est une réalité. La réalité est une chose ou est un événement ou ce sont des circonstances qui peuvent changer, qui peuvent varier selon le temps, selon les circonstances. La vérité, c'est que j'ai la peau noire. Je pourrais habiter au Québec pendant 150 ans. Est-ce que ma couleur de peau va changer? Non. Je pourrais changer mon accent, parler comme quelqu'un de la Beauce. Est-ce que ma couleur de peau va changer? Si on me transporte à la lune et que je reste là pendant 200 ans, est-ce que ma couleur de peau va changer? Ma couleur de peau est une vérité sur qui je suis. Mais si vous regardez, la réalité, c'est que je peux prendre du poids. Excusez-moi, mesdames. La réalité, c'est que je peux changer d'auto. Voilà, ça c'est le meilleur exemple. La réalité, c'est que mon auto peut manquer de gaz. Mais la vérité est une chose qui est immuable, qui ne varie pas, ni selon les temps, ni selon les circonstances. Alors beaucoup de gens, leur ceinture de vérité, c'est leur réalité de la famille. La ceinture de vérité qu'ils portent, c'est la réalité du nombre de temps qu'il a passé sans avoir d'emploi. Alors, parce qu'il a passé quelquefois au chômage, dès qu'il a un emploi, sa vérité, c'est que ce n'est pas mon Dieu pourvoira tous mes besoins, mais c'est « Ouh, je risque de perdre ce travail. Je risque de perdre ce travail. » Dès qu'on le regarde au travail, il dit « Ah, je vais perdre le travail. » Et tout son comportement n'est plus un comportement de posséder ce que Dieu lui donne, mais c'est de perdre ce que Dieu lui a donné. Parce que tu as été là, tu as eu un mariage qui n'a pas fonctionné, et que dans ta famille, les gens ont eu des divorces. Dès que tu arrives, tu t'es marié, c'est ton deuxième mariage, tu dis, oh, je veux aussi perdre celle-là. Donc, c'est la première, tu l'as perdue après 5 ans, puis tu dis, oh, je veux encore perdre celle-là. Et tout ton voyez-vous que la ceinture détermine le comportement. Tout ton comportement devient un comportement déterminé par le genre de ceinture que tu portes. Voilà pourquoi lorsque tu arrives même à une étape où tu peux même sauver ton mariage, tu ne fais rien. Parce que la vérité de la ceinture que tu portes te dit, laisse faire. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Quelle est la réalité de la ceinture que tu portes? Comment tu l'appelles? Comment nous appelons cette réalité? Vous savez, cette réalité peut être une ceinture que même l'Église entière porte. On est en Beauce. On ne peut pas dépasser 200 personnes. C'est une réalité. Mais la vérité dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La vérité dit que tout est possible à celui qui croit. Alors le but de l'ennemi, c'est que soit tu portes la ceinture du mensonge, ou tu portes la ceinture de la réalité. L'un ou l'autre ne peuvent pas t'aider à avancer. Mais l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, si vous voulez tenir ferme, si vous voulez être résistant, vous devez porter la ceinture de la vérité. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que la ceinture de la vérité dit? La ceinture de la vérité dit que, qu'importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai été élu par Dieu depuis la fondation du monde. Et parce que j'ai été élu par Dieu, ma ceinture de vérité que je dois mettre autour de moi me dit que je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Cela veut dire que tout ce que Dieu a, Dieu le met à ma disposition. Le royaume de Dieu est à ma disposition. Je suis un enfant de Dieu. Même si j'ai péché, même si je suis tombé, je me relève parce que je suis un enfant de Dieu. C'est ça ma ceinture de vérité. Quelqu'un dit amen. La deuxième vérité que ma ceinture me dit, c'est que en Christ, j'ai la rédemption et la rémission des péchés par son sang. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Jean que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Combien de chrétiens vivent avec la culpabilité, ne peuvent pas parler des péchés qu'ils ont commis parce qu'ils sont rongés par la culpabilité. En réalité, quand ils ne s'engagent pas avec Dieu, parce qu'ils se sentent coupables. Mais la Bible dit que Christ nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous. nous à la croix de Golgotha. Christ nous a pardonné à la croix de Golgotha. Dieu a effacé nos péchés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et si nous péchons, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Voici un élément que tu dois mettre sur la ceinture de vérité. Quelqu'un dit amen. Troisièmement, j'aimerais dire que le troisième élément de notre ceinture de vérité doit être que en Christ, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. C'est ça l'élément que je mets. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, je me souviens qu'il y a le sceau de Dieu sur moi. Quand je suis découragé, je me souviens qu'il y a le sceau de Dieu sur moi, qu'il y a la main de Dieu sur moi, que le sceau du Saint-Esprit sur ma vie est une garantie que même si je perdrai tous mes biens, un jour, je rentrerai dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça les garanties de Dieu, le sceau que je dois porter, la ceinture de vérité, me souvenant que qu'importe ce qui arrive, je suis un enfant de Dieu. J'ai droit d'entrer dans la présence de Dieu. J'ai droit de me tenir devant Dieu et de rechercher la présence de Dieu et Dieu interviendra pour moi. Je termine, mes bien-aimés, en vous posant cette question. Quelle ceinture tu portes ce matin? La ceinture du mensonge? La ceinture de vérité? Ou la ceinture de la réalité. Tu vas chez le médecin et on te dit, tu as telle maladie. Tu as le choix de la ceinture que tu vas porter rapidement. On te dit, tu as le cancer. Quelle ceinture tu décides de porter? Tu arrives au travail le lundi matin, tu as perdu ton emploi. Quelle ceinture tu décides? Parce que c'est quand tu es attaqué que tu tiens ferme. Donc, c'est quand l'attaque arrive que tu dois porter la ceinture. Donc, face à toute attaque qui arrive dans ta vie, tu as le choix de la ceinture que tu décides de porter. Quand l'attaque de l'ennemi arrive, tu as 3 secondes pour réagir rapidement sur le genre de ceinture que tu vas décider de porter. Je finis par ce témoignage. Il y a un bien-aimé dans notre assemblée à Montréal qui est parti un jour chez le médecin. On sort les résultats de ses tests. On dit, monsieur, vous avez le cancer et c'est très avancé. Il sort de là et dit, non, Seigneur, je refuse ça. Ce n'est pas moi. Il retourne chez le médecin. Le médecin lui dit, excusez-moi, on s'est trompé, ce n'était pas votre dossier. Quelle ceinture tu décides de porter ce matin? Moi, le Dieu que je sers, je l'ai vu faire disparaître des cancers. Le Dieu que je sers, je l'ai vu guérir du sida. Le Dieu que je sers, je l'ai vu guérir une femme que la médecine avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle avait une tumeur dans le cerveau qui déréglait ses hormones. Quand nous avons prié, la tumeur est restée, mais aujourd'hui elle a 3 enfants. Explique-moi le miracle. Quelle ceinture vous décidez de porter? La ceinture de la réalité, de l'économie de dehors? Quelle ceinture tu décides de porter? Le choix, c'est ton choix. Mais Dieu a dit, je vous ai donné mes armes. Mais tu ne peux pas. Il y a des gens qui ont un très grand bouclier de la foi, une petite ceinture de vérité. C'est une corde, en fait. La petite corde. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Non. Il y a des attaques sur lesquelles tu as besoin de porter la ceinture qui dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. La ceinture que tu dois porter face à certaines circonstances doit dire que ce n'est pas des projets de malheur que Dieu a formés sur moi, mais des projets de bénédiction. La ceinture que tu dois porter à certains moments doit dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Tu as le choix de la ceinture. Quelle ceinture tu vas décider de porter cette semaine? Il y a une ceinture que l'apôtre Paul a portée un jour qui s'appelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a une ceinture qu'il a portée un jour, je pense qu'il était découragé, mon frère. Il a dit « C'est alors que je suis faible, que je suis fort ». Qu'est-ce que tu décides de porter? Remarque que Dieu ne parle pas des circonstances, il dit « Tu dois te revêtir ». Mais tu peux avoir un gros bouclier de la foi, mais pas de ceinture, ça ne sert à rien. Alors cette semaine, mon encouragement pour chacun d'entre vous ici, portez la ceinture de la vérité. Mettez de côté les ceintures du mensonge. Mettez de côté la ceinture de la réalité. Portez la ceinture de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Élevons la voix un moment, prions par rapport à cette parole. Parle au Seigneur un moment.